J'aime ce texte dans Jean 3,16 que tout le monde connaît. Hein, quand on parle d'un verset dans la parole de Dieu et qu'on ne veut pas prendre quelqu'un au piège, alors on lui demande s'il connaît Jean 3,16. Et souvent, tout fier, il répond « Oui, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puis dans 1 Corinthiens 3,16, alors c'est une méthode mnémotechnique pour vous rappeler les versets, dans 1 Corinthiens 3,16, ce verset qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Lorsque nous sommes sauvés parce que l'œuvre de la croix nous a été révélée par l'Esprit de Dieu, eh bien Dieu nous dit que nous sommes devenus le temple de Dieu, la présence de l'Esprit. Est-ce qu'on peut réaliser ça ce matin? Yeah! C'est tout un programme que d'être le temple, que d'être l'habitation de celui qui a créé les cieux et la terre. Tout un programme. J'aimerais comparer le contenant que nous sommes et qui reçoit le contenu qu'est le Saint-Esprit avec deux images que nous donne la parole de Dieu. Le premier, c'est un vase. C'est la prière qui a été formulée tout à l'heure. Et vous trouvez cet exemple un peu dans le livre de Jean, chapitre 4, l'histoire de la Samaritaine que vous connaissez. À qui Jésus a dit dans Jean, chapitre 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et son corps, sa vie, eh bien, recevra cette eau qui jaillira de l'intérieur de lui jusque dans l'éternité. Imaginez que, je n'ai pas eu le temps nécessaire, mais imaginez que ce vase n'est pas de fleurs. Celui-ci n'étant pas transparent, il servira pour l'exemple que j'aimerais vous donner, et qu'il y ait à côté de lui un même vase identique, non transparent, et que dans l'autre vase, il n'y ait pas non plus de fleurs. Et qu'avant que vous n'arriviez dans l'église, eh bien, je mette de l'eau dans un des deux vases. Et que vous n'ayez pas le droit de venir devant pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur des vases. Comment reconnaîtriez-vous le vase dans lequel il se trouve de l'eau? Comment? Difficile? Oui, on met, alors là, je vois là un mari qui offre souvent des fleurs à son épouse, qui se cache lorsque je dis cela. Mais moi, on m'a dit que dans l'église ici, apparemment, les maris, de manière très particulière, offrent des fleurs à leurs épouses. Non pas seulement dans des situations comme la fête des mères. M'aurait-on trompé par hasard? Oui, bien sûr. Il s'agit, sans regarder ce qui se trouve dans le vase, de mettre à l'intérieur, dans chacun des deux vases, un bouquet de fleurs. Et alors, en restant devant le vase pendant peut-être quelques jours, enfin, je pense que vous avez autre chose à faire, mais vous verriez en tout cas que le vase dans lequel se trouve de l'eau verrait les fleurs continuer à manifester leur beauté et leur parfum et à répandre un parfum doux et agréable. Alors que le vase ne contenant pas d'eau, eh bien verrait les fleurs se faner, puis plus rapidement en tout cas que les autres se dessécher. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Il veut que nous soyons porteurs d'un parfum de bonne odeur. Amen. Et je refuse de croire que, eh bien, ce n'est que les gens qui disent « moi, je suis rempli du Saint-Esprit » qui le sont. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le fruit que porte votre vie, l'odeur que vous portez, pour constater alors que vous êtes une personne remplie du Saint-Esprit. Hein, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ce n'est pas ceux qui crient « Moi, je suis rempli du Saint-Esprit ». Mais c'est ceux dans la vie de laquelle on peut voir au travers de leurs œuvres qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et puis, il y a un deuxième exemple que j'aime bien et qui est cité dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Et il est dit là « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche ». soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui était ivre ? Attendez, je repose ma question. Est-ce que quelqu'un de vous dans l'église ici présente, bien qu'étant une église très sainte, est-ce que quelqu'un d'entre vous peut dire qu'il a déjà été ivre ? La gaieté, c'est déjà le début de l'ivresse quand même. Hein ? C'est déjà la preuve que vous avez bu un peu trop. Hein ? Alors, je ne dis pas ivre au point d'être mort par terre, hein, mais au point de changer de comportement. En fait, au point de voir que ce que vous avez ingurgité en alcool commence à se traduire dans votre comportement. Alors, je ne vous demanderai pas de lever la main ce matin, parce que je sais bien que la plupart d'entre vous ne la lèverez pas. Alors, je vais vous dire quelque chose, mais ne le dites à personne. Deux fois dans ma vie, déjà, j'ai été ivre. En tout cas, mon comportement a changé face à cela. La première fois, j'avais 9 ans. Oui, je dois le dire à mon grand regret, j'étais très jeune. En fait, c'était le jour de ma communion. Et puis, j'avais été invité dans ma famille. Et vous savez, en Alsace, on a l'eau de vie de l'histoire de la Samaritaine un peu revisitée. Et puis, il y avait là plusieurs petits verres, je les trouvais d'ailleurs bien petits pour contenir du liquide, qui contenaient de l'alcool qui, d'après ce qu'on m'avait dit, était de l'alcool à très forte teneur en alcool. Et puis, ma mère, me voyant lorgner ces petits verres, me regarde en me disant « Je t'interdis de boire ce qu'il y a dans ces verres. » Et vous savez, il suffit d'interdire pour que vous ayez envie de faire le contraire de ce qu'on vous a dit, surtout à 9 ans, surtout quand on est préado. Et puis, je m'approche des verres, je regarde à droite, à gauche, personne n'était dans la pièce, et je prends un de ces petits verres, et y a une expression qui s'appelle « boire cul sec hein, », que vous connaissez. Et alors, évidemment, je me suis dit « je vais le boire rapidement pour que je ne sois pas pris la main dans le sac ». Et puis aussi rapidement que j'ai bu le verre, je me suis retrouvé de la position horizontale, verticale à la position horizontale. Et on a pu constater l'effet qu'avait produit ce liquide en moi. Le deuxième exemple que je donnerai, j'en ai un peu honte d'ailleurs, c'est alors que j'avais été invité à un mariage et que j'ai très peu l'habitude de boire de l'alcool. J'avais bu un ou deux verres de vin blanc avant le repas. Et alors, il y avait sur la table un bouquet de fleurs qui était un peu comme ça. Et je suis monté sur la table en imitant le cri de Tarzan. Et j'ai trouvé original de prendre le bouquet de fleurs et de commencer à le dévorer en même temps que j'imitais le cri de Tarzan. Voilà. Alors ça, c'était une parenthèse. Et je vous interdis de sortir cette parenthèse de ce bâtiment. D'accord ? Je veillerai à ce que... En tout cas, Philippe y veillera. Ce que j'aimerais dire au travers de ces deux exemples, c'est que autant qu'on a pu voir, lorsque j'étais ivre de cet alcool, mon comportement qui avait changé, autant il est important que l'on puisse voir dans la vie de chacun d'entre vous ceux et celles qui sont remplis du Saint-Esprit. Autant l'on doit voir de chacun d'entre vous que vous êtes comme un vase portant un bouquet de fleurs, dégageant un parfum de bonne odeur. Et comme cette comparaison que j'ai trouvée toujours très, très particulière de l'homme ivre et de l'homme ivre rempli du Saint-Esprit, eh bien que l'on puisse voir ce comportement qui change parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Alors j'aimerais prendre rapidement ce texte que vous connaissez bien aussi, dans Actes chapitre 1, versets 6, 7, 8. Je vous invite à prendre la parole de Dieu et à ouvrir sa bouche avec moi. Et alors il est dit là, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, à Nantes et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alors quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi les disciples avaient-ils besoin pour être des témoins d'être remplis du Saint-Esprit ? Après tout, ils étaient pendant trois ans et demi, aux côtés de leur maître Jésus. Ils avaient vu leur maître accomplir différents miracles. André et Philippe, entre autres, ont assisté à la multiplication des pains, voyant Jésus de manière miraculeuse répondre aux besoins de la foule. Pierre a marché sur l'eau, voyant au travers de cela Jésus être le maître des éléments. Un homme a été guéri de sa paralysie à la piscine de Bethesda, n'ayant pas besoin de suivre la coutume qui consistait, lorsque l'eau bougeait, à se jeter en premier dans l'eau pour être guéri. Lorsque Jésus est là, il fait fi des coutumes. Il est venu, il a guéri cet homme. Et puis Lazare, Jean chapitre 11, qui a été ressuscité des morts. Écoutez ce qu'il est dit dans Jean 21 à la fin de ce chapitre. Si l'on écrivait les détails de ce que Jésus a fait, le monde ne pourrait contenir les livres où se trouverait tout ce qu'il a fait. Et alors je me suis dit, mais pourquoi les disciples qui en connaissaient parce qu'ils l'avaient vécu avec Jésus, parce qu'ils en avaient été témoins plus que n'importe qui d'entre nous, pourquoi les disciples avaient-ils besoin, avant d'aller témoigner, d'être remplis du Saint-Esprit ? Ils avaient tellement de témoignages à raconter qu'ils auraient pu passer le restant de leur vie à raconter, à témoigner tout ce que Jésus avait fait, à parler de lui, et en l'occurrence, la résurrection de Jésus. Pourtant, Jésus leur a dit, attendez là où vous êtes, parce que mon souhait, c'est que vous soyez des témoins. Alors laissez-moi vous donner quelques raisons pour lesquelles, pour être et pour devenir des témoins efficaces, il est important que chacun d'entre nous et l'Église de Jésus-Christ soit rempli du Saint-Esprit. Premier élément, alors ma liste n'est pas exhaustive, il y aurait bien sûr beaucoup d'autres points à donner, mais j'ai essayé de prendre quelques points qui me semblent être essentiels. Premier point, Dieu, par son esprit, élargit notre capacité à voir ce que son royaume contient. Il élargit notre vision de son royaume. Notez bien que nous avons lu tout à l'heure, dans Actes chapitre 1, verset 6, que les disciples pensaient que Jésus allait établir son royaume sur ces terres, allait détruire les envahisseurs d'alors, les Romains. Les disciples pensaient que Jésus allait venir avec son armée céleste pour devenir le roi de cette terre. Mais Jésus leur a dit non, non. Ce n'est pas à vous de connaître les temps que j'ai fixés pour établir mon royaume, mais je veux que vous soyez mes témoins. Autrement dit, il a permis par son esprit que les disciples ne restent pas dans cette vision étriquée qu'ils étaient humainement incapables de comprendre. Mais ils avaient besoin, les disciples, de recevoir la vision du royaume de Dieu. Et Dieu est là pour élargir notre vision. La volonté de Dieu n'est pas toujours notre volonté. Amen. Est-ce que l'on peut dire cela ? Il arrive, je ne sais pas vous, mais en tout cas, il m'arrive de vivre des difficultés qui, lorsque je les analyse avec mon intelligence, ne me permettent pas de les comprendre ou de savoir pourquoi je les vis, de le savoir en tout cas sur le moment présent. J'en veux peut-être pour preuve l'histoire qui se trouve dans Actes chapitre 16. C'est l'histoire que vous connaissez bien de Paul et Silas qui, parce qu'ils avaient manifesté la puissance de Dieu, ils viennent de chasser l'esprit python d'une femme. Et ils ont, parce qu'ils étaient dérangeants dans leur langage, dans le message qu'ils apportaient, ils ont été jetés en prison. Et l'histoire ne le dit pas, mais peut-être qu'au début de cette épreuve, Paul et Silas, en prison, dans les chaînes, discutaient entre eux. Et peut-être qu'ils disaient, ce qui est tout à fait humain, mais pourquoi sommes-nous en prison ? Pourtant, nous avons prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu a agi et maintenant, tout ce que nous avons, c'est nous retrouver enchaînés en prison et peut-être nous allons être condamnés à mort. Pourquoi ? Peut-être qu'ils ne le comprenaient pas, mais regardez bien ce qu'il est dit dans Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas commencèrent à louer le Seigneur. Et vous savez ce qui me plaît dans ce même verset 25 du chapitre 16, il est dit « Et les prisonniers les entendirent ». Est-ce que les prisonniers de ce monde qui vous entoure vous entendent vous réjouir dans l'épreuve que vous vivez ? Je crois de tout mon cœur que parce que Paul et Silas, malgré l'épreuve qu'ils vivaient, ont fixé leur regard vers l'Éternel. Leur joie manifestée dans l'épreuve a permis aux prisonniers qui les entouraient, et en particulier au geôlier et à sa famille, d'être touchés. Et leur joie a déclenché le miracle. Vous savez, souvent, nous, on impose les mains aux malades, et c'est très bien, c'est important de le faire. On prie avec persévérance, mais je crois tout mon cœur que si vous portez du fruit, cela peut également être déclencheur du miracle de Dieu. Il n'est pas dit que Paul a imposé les mains aux portes des prisons. C'est sa joie manifestée dans l'épreuve, c'est la louange de Paul et Silas qui ont déclenché le miracle de Dieu et permis que la prison tremble, que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent et que des prisonniers soient touchés. Amen. Bien qu'ils n'aient pas compris forcément ce que Dieu allait faire, c'est leur joie dans l'épreuve qui a permis à Dieu d'ouvrir les écluses de sa bénédiction. Peut-on comprendre tout ce que Dieu fait avec nos vies ? Certainement pas. Je me rappelle avoir vécu une expérience un peu particulière une fois. Alors que j'étais dans la salle un mardi soir, j'écoutais pasteur Christian prêcher. Et puis pendant qu'il prêchait, voilà qu'est venue dans mon esprit une pensée. Quand la prédication sera finie, tu iras à la gare pour voir une prostituée. Alors bien sûr, mon premier réflexe fut de chasser l'esprit méchant et impur qui voulait m'empêcher d'écouter le message. Et c'est ce que je fis, évidemment discrètement. Et puis cette pensée continuait à rester, à s'ancrer en moi. Alors bien sûr, ma femme qui était à côté de moi, je ne me suis pas amusé à lui partager cette pensée. Hein. Et puis je me suis dit, bon Seigneur, je ne l'ai dit à personne, finalement, je vais aller en direction de la gare et puis tu conduiras. S'il ne se passe rien, ben, comme je n'ai dit à personne, je n'aurai pas l'air ridicule. Et puis j'ai pris la voiture, je suis allé en direction de la gare. Et là, en allant en direction de la gare, j'étais à 3-4 minutes. Voilà que sur le trottoir marchait une jeune femme revêtue, comment dirais-je ? De l'ourlet de la robe. Vous savez, on a juste l'ourlet, la robe qui monte bien haut comme ça. Et alors, je voyais cette femme faire du stop et je m'arrête en voiture et je dis, écoutez, montez, je peux vous emmener quelque part. Elle me dit, oui, dans le lieu où je travaille. Puis je dis, ah, vous travaillez où ? Elle me dit, ben, je travaille à la gare. Je faisais semblant de ne pas avoir compris. Et puis, j'ai pu, à cette occasion, alors témoigner à cette femme, lui parler de Jésus. Témoigner de ce que Jésus avait fait dans ma vie, mais également eh bien, témoigner de différentes choses que Jésus avait faites dans d'autres vies. Et cette femme me disait, c'est pas la première fois que Dieu m'appelle. Déjà, il m'avait appelé au travers du témoignage de, et elle me citera une personne qui était dans l'église, à qui j'ai pu dire par la suite que j'avais eu l'occasion de la rencontrer. J'ai trouvé fou cette pensée. Alors, je dis pas que Dieu vous donnera cette pensée, hein. Si elle vient, vous avez le droit de la rejeter. Mais je dis que des fois, Dieu me donne des pensées qui, aux yeux des hommes, sont folles, mais qui font partie de la vision de son royaume. Peut-on élargir la vision du royaume de Dieu et croire que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse de l'homme? Et que si l'Esprit de Dieu remplit nos vies, alors il nous donne la capacité d'écouter ce qu'il a à nous dire. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est que quand l'Esprit vient en nous, il change notre caractère. Alléluia. Est-ce que je peux entendre les maris dire amen de leur femme? Est-ce que je peux entendre le amen des femmes en direction de leur mari? Ah non, là, il y a eu un mélange, là. Hein, dans le texte que nous avons lu dans Actes chapitre 1, verset 8, il n'est pas dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, pour témoigner ». Est-ce qu'il est dit ça? Est-ce que c'est ce qu'il est dit dans Actes chapitre 1, verset 8? Il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, pour devenir des témoins. Être un témoin, ce n'est pas seulement témoigner avec notre bouche. Témoigner avec notre bouche, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, n'est que l'un des résultats de la présence du Saint-Esprit en nous. Mais ce n'est pas le seul. Être un témoin, c'est beaucoup plus profond, ça sort de l'intérieur de nous. Ce n'est pas juste des mots qui s'expriment, mais c'est également une attitude qui s'exprime. Nous sommes, et nous l'avons dit hier à l'occasion de la sortie dans le quartier, nous sommes, avant de parler, des lettres que les familles et les enfants doivent pouvoir lire au travers de notre comportement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que parce que le Saint-Esprit nous donne le caractère de Jésus, que les gens qui nous voient, sans même forcément que nous ayons besoin de parler, voient au travers de notre comportement des Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi, je souhaite que Dieu change mon caractère. Et qu'il puisse, et que ma femme puisse dire amen d'abord, parce qu'elle me côtoie tous les jours, et c'est elle qui est le plus à même de dire oui, il a changé de caractère. Parce que vous savez, à l'église, 2 heures par semaine, ou 4 heures par semaine, c'est facile de montrer un caractère changé, qu'il est peut-être des fois uniquement de façade. Mais est-ce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le caractère de Jésus se voit au travers de notre attitude? Galates 5, 22, il y a bien sûr là la description de ce fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, etc. Porter le caractère de Jésus se trouve également dans la définition de l'amour, 1 Corinthiens 13. Hein, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui est patient. Laissez-moi vous raconter ce témoignage que j'aime beaucoup raconter. Pardon aux Mulhousiens qui l'ont déjà entendu X fois. J'étais un jour, nous faisions une colo avec les enfants des quartiers un peu difficiles. Et puis, j'avais en ma possession un tout nouveau portable qui s'appelle un iPhone. Oula. Et puis, vous savez, j'ai honnêtement pas beaucoup de mal à prêter mon iPhone aux enfants pour qu'ils aillent à droite, à gauche, et puis qu'ils jouent au jeu et qu'ils me le ramènent après. Et puis, il y avait une petite fille, une jeune fille de 11 ans, qui s'appelait Nisrine. Et Nisrine est venue me voir et me disait, « Bébert, est-ce que tu peux me prêter ton iPhone pour que je puisse jouer avec ?» Alors quand même, j'ai fait attention, hein, parce que c'était assez nouveau. J'ai dit, « Écoute, je te le prête, mais tu fais attention. » »« Mais oui, tu sais que je fais attention. » Et puis, alors, voilà. Alors, je lui donne. Et puis, 10 minutes après, elle revient. Et elle revient en pleurs. Et elle me dit, « Bébert, Bébert, tu sais pas quoi. » Alors, je la voyais tenir l'iPhone dans la main, mais la vitre contre la paume de sa main. Et je regarde l'iPhone, je commence un peu à transpirer. Et je dis à la petite fille, Nisrine, j'ai dit, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Nisrine ?
Bébert, tu vas plus m'aimer. Ton iPhone.
Je lui dis, qu'est-ce qu'il a, mon iPhone ?
J'ai cassé ton iPhone.
Je regarde Nisrine. Et puis, le thème de la colo, c'est le thème qui a marqué sur ce bracelet qui est là. WWJD. What would Jesus do ? Que ferait Jésus à ma place ? C'est le thème que nous avions traité avec les enfants. Et alors, Nisrine retourne le portable, côté face, et puis me montre qu'effectivement, elle n'avait pas menti en m'exprimant ses larmes, puisque le portable était, en tout cas la vitre, en mille morceaux. Et alors, je regarde le portable, et puis je regarde mon bracelet. Et dans mon cœur, Jésus, tu ferais quoi à ma place ? Et alors je regarde la petite fille, Nisrine, puis je regarde encore le. Et puis je regarde Nisrine et je regarde mon portable. Bon, c'était quand même un beau portable. Hein. Et puis je regarde Nisrine, je regarde mon bracelet, je regarde le portable, mon bracelet, Nisrine, le portable. Et là, une présence de Dieu. Et je regarde cette jeune fille, je lui dis, mais comment tu peux imaginer qu'on puisse ne plus t'aimer à cause d'un vulgaire appareil comme ça ? Enfin, vulgaire, il était quand même pas mal. Hein. Et alors, je l'ai serré contre mes bras, je lui dis, Nisrine, pas de problème. Pars en paix, moi je l'avais un peu moins la paix, mais pars tranquille. Et puis le jour d'après, ou le même jour, je ne sais plus, en tout cas, il avait raconté à la colo ce qui s'était passé. Ils avaient entendu dire que. Et puis une petite fille est venue me voir, elle m'a dit, c'est vrai que Nisrine t'a cassé ton portable. Je lui dis oui. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Je lui dis, ben rien. Elle me dit, mais moi je l'aurais collé contre le mur et j'aurais éclaté la tête. Je reste poli, hein, je suis quand même dans une église, donc je ne fais pas du copier-coller des paroles qui ont été dites, mais en tout cas, eh bien, c'est sûr que le comportement qui a été là, parce qu'il n'a pas été le comportement de la chair, mais le comportement de l'esprit, a permis eh bien, que ce témoignage vienne attester les paroles que nous disions aux enfants, « Que ferait Jésus à ma place ? » Veux-tu porter le caractère de Jésus et aimer de manière inconditionnelle. J'aimerais vous raconter un second témoignage. J'aime raconter des témoignages qui concernent une troisième facette de ce que l'Esprit veut faire, à savoir mettre dans nos cœurs la capacité d'avoir compassion des personnes qui nous entourent. J'entendais tout à l'heure dire, je ne sais plus si c'était au travers d'une prière ou du haut de l'estrade, mais j'entendais quelqu'un dire que Dieu a mis l'amour que nous avons pour lui au même niveau que l'amour de notre prochain. Alors, évidemment, aimer notre prochain qui nous aime, c'est facile. Amen. Mais quel mérite y a-t-il d'aimer notre prochain qui nous aime ? Il n'y a pas de mérite. Vous rendez l'amour que vous recevez par l'amour que vous donnez. D'accord ? Maintenant, aimer son prochain, c'est aimer également ceux qui nous font des misères et qui ne nous aiment pas forcément. Avec mon épouse, nous sommes également, je le racontais, famille d'accueil. Et la première fille que nous avons accueillie s'appelait Nancy. Elle venait de Marseille. C'était une Marseillaise. Alors, une Marseillaise dans toute sa splendeur. Hein. Autant dans son physique que dans son expression, que dans son caractère. J'aime les Marseillais. Hein, s'il y a des Marseillais là, je vous aime de tout mon cœur. Et puis, quand cette jeune fille est arrivée chez nous, l'éducateur me téléphone et me dit, écoutez, cette jeune fille qui a 15 ans, 16 ans, il me dit, écoutez, elle est vraiment gentille. La seule chose qu'elle fait de temps en temps, c'est qu'elle fugue. Alors je lui dis, écoutez, ben, on va essayer de gérer ça le mieux possible. Et puis voilà qu'elle arrive chez nous l'après-midi vers 15h, 16h. Puis le soir, j'avais une réunion pastorale. Je pars à la réunion. Nous avions ensemble également un repas, puisqu'en Alsace, on aime bien les réunions avec les repas. Et alors que nous discutions avec l'équipe pastorale, voilà que mon épouse m'appelle en disant « Dépêche-toi de venir, elle veut fuguer, elle veut passer par-dessus la balustrade de la maison et elle veut partir. » Alors je coupe court à ma réunion, je rentre à la maison et je dis « Nancy, tu me fais quoi là ?» Elle me dit « Mais je veux retourner à Marseille. » Et tu n'as pas le droit de m'en empêcher. Alors je la regarde, je lui dis oh oui, c'est vrai, vas-y, hein, si tu veux retourner, je ne peux rien faire. Alors elle a passé par-dessus la balustrade. Et puis une demi-heure après, elle m'appelle en me disant écoute, viens me chercher, s'il te plaît. Je lui dis t'es où ? Je suis près du zoo de Mulhouse. Elle m'a donné une indication, donc je l'ai recherchée. Et puis elle est rentrée à la maison. Deuxième jour, deuxième fugue. Voilà qu'elle repart en soirée. Vous savez, quand un jeune fugue, il faut aller au commissariat, vous déclarer la fugue, c'est toujours très long. Donc petit à petit, je suis devenu très copain avec les policiers. Je me suis dit, ça tombe bien, si j'ai une fois une contravention, ça peut servir. Voir, je buvais le café avec eux, etc. Et puis, je vais au commissariat et j'attends. Et puis, plusieurs personnes sont là. Et voilà que je passe. Et 2 heures après, je rentre. Et puis, elle me téléphone pour me dire, écoute, je reviens. Je dis, mais oui, t'es la bienvenue à la maison. En fait, c'est le but. Et puis, Nancy est revenue. Troisième jour, troisième fugue. Jérémy en est témoin, d'ailleurs. Je pars vers 19h30, direction l'église pour une réunion. Et une heure avant, elle venait de refuguer. Donc je pars au commissariat et il y avait du monde. Et j'ai dit, excusez-moi, mais j'ai une réunion. Je me rends d'abord à la réunion et quand elle sera finie, vers 22h30, je viendrai pour déclarer la fugue. Ils me disent, OK, il n'y a pas de problème, on était vraiment bons copains. Et puis voilà qu'à la fin de la réunion, vers 22h, un SMS sur lequel elle disait, viens me chercher. Alors je lui dis, mais t'es où ? Elle me dit, je suis à Cronenbourg. Alors elle écrivait, Cronenbourg, c'est un village qui est à 120 km de Mulhouse à peu près, à l'opposé de Marseille. Elle allait vers Marseille, elle allait à l'opposé. Après Strasbourg, il était 22h, j'étais quelque peu fatigué. Et d'autant plus que la nuit au niveau du temps semblait agitée puisqu'il y avait... beaucoup de vent, beaucoup de pluie, etc. Et Jérémy, d'ailleurs, et je bénis le Seigneur pour l'ami qu'il m'a donné, Jérémy a proposé de m'accompagner à Cronenbourg pour chercher cette jeune fille que nous avons récupérée vers le temps d'arriver, minuit, le temps de rentrer, une heure et demie du matin. Elle était cachée derrière une station totale, un peu isolée. Et puis, nous l'avons bien sûr rentrée, elle allait se coucher. Quatrième jour, quatrième fugue. Là, elle part et je lui écris, je lui dis, mais t'es allé où de nouveau ? Elle me dit, écoute, je reviens tout de suite. 2 heures après, elle n'était pas revenue. Je ne sais pas si à Marseille, le tout de suite, ça a une autre connotation, mais... Alors, bien sûr, je suis allé au commissariat, il était tard, je suis rentré 1h du matin, 1h30, j'étais fatigué. Je suis allé me coucher. Et puis, avant d'aller me coucher, je me suis dit, maintenant, ma cocotte... Je vais fermer la porte de la maison. Si tu veux rentrer, tu restes dehors. Comme ça, au bout de la quatrième fugue quand même. Hein. Et puis, je suis allé me coucher. Je pose ma tête sur le coussin. C'était tellement bon de pouvoir dormir un peu. Et je commence à m'endormir. Un SMS, viens me chercher. Je lui dis, mais t'es où ? Elle me dit, je suis en bas sur les escaliers et la porte est fermée. Alors, j'ai eu une discussion avec le Seigneur et j'ai dit, Seigneur, elle mériterait maintenant que je la laisse sur les escaliers et je vais le faire. Et puis, en même temps que je parlais avec le Seigneur, cette voix qui me disait, non, tu vas la chercher. Mais tu vas la chercher, tu lui ouvres la porte et tu lui dis rien. Ah, vous savez, dans des situations comme ça, on aime bien discuter avec le Seigneur, mais on peut discuter comme on veut. Hein. Soit on refuse de faire sa volonté, soit on l'a fait, mais en tout cas, il a toujours raison. Alors, je descends de mon lit tout d'abord, puis des escaliers ensuite, pour aller ouvrir la porte devant laquelle elle se trouvait. Et en ouvrant la porte, la présence de Dieu est venue sur moi. C'est difficile à expliquer, mais je pense que ça a été cette présence de Dieu identique à celle que l'Esprit de Dieu a posée sur le Père qui attendait le Fils prodigue. Prêt, quand il est rentré, à ne pas lui faire de remontrance, mais à se réjouir avec lui de l'accueillir tout à nouveau à la maison. Et alors j'ai ouvert la porte, j'ai dit « Nancy, je suis tellement content de te voir. Monte te coucher. » Je pense qu'elle a été étonnée. Elle est montée se coucher. Je suis moi-même montée me coucher. Je pose ma tête sur le coussin, un SMS. J'ai dit « Ça y est !» Et sur ce SMS, elle disait « Bertrand, je te demande pardon d'avoir fugué et je te promets qu'à compter de ce jour, plus jamais je ne fuguerai. » Et elle est restée encore quelques jours à la maison et effectivement, plus jamais elle n'a fugué. Est-ce que le Saint-Esprit peut changer notre caractère? Est-ce qu'il peut nous donner la capacité de rentrer dans ce royaume qui nous aide à nous laisser saisir, non pas jusqu'où nous sommes capables de faire, mais jusqu'où lui est capable de faire. Et à dire peut-être à ceux qui humainement ne le méritent pas, mais méritons-nous d'être sauvés? Méritons-nous tous les jours d'être aimés par le Seigneur? Il nous aime de manière inconditionnelle. Amen. Avant-dernier point, il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, « L'amour de Christ nous presse à accomplir sa volonté. » Et j'aimerais parler là en particulier de cette capacité à avoir compassion des personnes. Vous savez, avoir compassion des personnes, ce n'est pas évangéliser de manière technique. Je disais hier que l'outil que nous voulons laisser à l'Église, qu'est Quartier Libre, ce n'est pas juste un outil qui doit être utilisable de manière technique, mais cet outil doit être accompagné de personnes remplies du Saint-Esprit, qui parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ont reçu la compassion pour les perdus. Et comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est tellement important d'aller là où les gens souffrent. Et je suis tout à fait d'accord de dire que là où nous allons, c'est l'Église qui va. Ce bâtiment n'est qu'un bâtiment. Vous pouvez l'agrandir fois 10, il restera un bâtiment. Et quand vous n'êtes pas dans ce bâtiment, venez une fois voir le bâtiment vide. Souvent, il m'arrive de parcourir le bâtiment vide de la porte ouverte de Mulhouse. Mais je dis, Seigneur, s'il n'y a aucun chrétien dans ce bâtiment, l'Église, c'est juste des murs. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes les pierres vivantes de cette Église. Et nous devons recevoir de la part de Dieu cette compassion. Est-ce que j'ai encore le temps de vous le raconter? Est-ce que vous me laissez encore 7 minutes 30? D'accord. Quand je suis venu au Seigneur, j'étais très timide. Jamais je n'aurais seulement imaginé un seul instant pouvoir me tenir devant une foule comme la vôtre pour annoncer l'Évangile. Jamais. À partir du moment où dans une même pièce se trouvait plus que moi, je perdais tous mes moyens pour parler. La première fois que je suis allé dans une réunion de prière, j'ai mis à peu près un an et demi pour essayer dans ma tête de construire une phrase qui est ensuite devenue une prière que j'ai élevée à voix haute. Mais j'étais tellement content lorsque ma phrase était finie. Tellement j'étais timide. Et quand Dieu m'a appelé à le servir, en particulier dans cette œuvre dans les quartiers, alors que du haut de ma véranda, j'habitais dans l'un de ces quartiers au 9e étage, je regardais les enfants qui étaient en bas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants de ce quartier ? Je disais, lorsqu'en allant au Sénégal, Dieu confirmait vouloir m'utiliser pour ce travail-là. Je disais dans mon cœur, mais Seigneur, si tu veux m'utiliser pour ce travail, je voudrais que pendant le voyage que je fais en allant en direction du Sénégal, nous avons une mission là-bas, je puisse vivre au moins une chose que je n'ai jamais vécue et que peut-être je ne vivrai plus jamais. C'est une drôle de prière, hein ? Et puis en allant dans l'avion, je ne pensais pas que Dieu allait répondre aussi vite à ma prière. Vous savez, faites attention quand vous priez, parce que c'est dangereux de prier. Je dis ça avec beaucoup de sérieux. Hein. Faites attention à ce que vous osez demander à Dieu, parce que Dieu risque de répondre à votre prière. Je ferme la parenthèse. Et puis voilà que j'arrive au guichet, et j'avais avec moi une vieille guitare. Vous savez, une guitare à moitié démontée, que seuls des Sénégalais savent bricoler pour la remettre en état. Et lorsque j'arrive devant le guichet des hôtesses de l'air qui enregistraient les bagages, l'hôtesse voit ma guitare et je lui demande « Est-ce qu'il serait possible d'emmener la guitare en bagage à main ?» Parce que j'ai peur qu'en arrivant, si je la mets en soute, elle soit encore en plus mauvais état. Et alors elle me regarde et elle me dit « Oui, vous pouvez le faire à une condition. » Je lui dis « Quoi ?» Elle me dit « À condition que dans l'avion, vous nous jouiez un morceau de guitare. » Alors, il y a une chose que je n'ai pas précisée, c'est que je ne sais pas du tout jouer à la guitare. Et que quand je commence à chanter dans l'église de Mulhouse, tout le monde va se cacher. Et elle me demandait donc de faire deux choses que j'étais absolument incapable de faire. Alors moi, je rigole, je dis « Mais oui, pas de problème ». Ne m'imaginant pas qu'elle pouvait me demander une telle chose et pensant qu'elle allait m'oublier à 8000 mètres d'altitude. Et voilà que l'avion prend son envol avec ma guitare déglinguée et ma voix déglinguée. Et puis voilà que l'hôtesse s'approche de moi. Et là, quand je la vois arriver, je m'enfonçais dans mon siège. Elle vient me voir et elle me dit... Écoutez, est-ce que vous vous rappelez de la promesse que vous m'avez faite ? Non ! Non, non, de quoi vous voulez parler ? En espérant qu'elle avait, elle, oublié, mais ce ne fut pas le cas, puisqu'elle m'a demandé d'aller jouer maintenant un morceau de guitare au micro, devant les passagers qui étaient là, et c'était impossible de s'enfuir, puisqu'à 8000 mètres d'altitude, hein. Alors, je prends la guitare, je vais devant au micro, et puis j'ouvre la housse de guitare, je sors la guitare déglinguée, je commence à essayer de faire semblant de l'accorder, parce que je ne savais bien sûr pas non plus accorder une guitare. Et puis voilà que se trouvait dans l'avion un guitariste professionnel qui vient me voir et qui me dit... Écoutez, si vous voulez, j'essaye de vous accorder la guitare. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans l'avion, toi ? C'est vrai, il y en a toujours, ils se mêlent de choses qui ne les regardent pas. Je ne comprends pas. Puis voilà qu'il commence à essayer d'accorder la guitare, arrivant à une conclusion, à ma plus grande joie, de dire, ben, écoutez, elle est tellement déglinguée, votre guitare, que malheureusement, c'est impossible de l'accorder. Soupir de soulagement. Je vais voir l'hôtesse, je lui dis, écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas. Vraiment, je suis vraiment désolé. Hein. Sur le coup, j'avais l'air très sincère. Mais je ne peux pas jouer de la guitare. Elle me dit, bon, ben tant pis, puis je vais me rasseoir sur mon siège. Et là, l'Esprit de Dieu qui commence à me parler. Tu as loupé une occasion que je t'ai donnée pour parler de moi. Et vous savez, quand l'amour de Dieu vous presse à l'intérieur de vous, ça vous presse, il y a quelque chose à l'intérieur qui vous pousse à faire des choses que humainement, vous ne pouvez pas faire. Et là, je commençais à bouger sur mon siège dans tous les sens et j'ai dit, bon Seigneur, je ne sais peut-être pas jouer de la guitare, je ne sais peut-être pas chanter, mais je vais en tout cas au moins essayer de proposer à l'hôtesse de l'air de prendre 5 minutes le micro. Je suis allé voir l'hôtesse de l'air. Je lui ai dit, écoutez, madame, je suis désolé de ne pas pouvoir tenir ma promesse. Néanmoins, serait-il possible d'avoir 5 minutes le micro pour parler aux gens qui sont là ? Puis à ma grande surprise, l'hôtesse me dit, oui, elle me tend le micro. Et là, j'ai pu à 8000 mètres d'altitude. C'est probablement la prédication la plus haute qui a existé. Pendant 5 minutes, j'ai pu parler de la mission, de ce que nous faisions, de qui nous étions. Et je me réjouis parce qu'à ce moment-là, en tout cas, personne n'a quitté l'avion. Tout le monde est resté pour écouter. Dieu est fidèle. Amen. Et puis, il y a un autre point, je ne veux pas le développer, mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, la puissance de Dieu nous accompagne. J'aime ce miracle qui se situe dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 19, verset 11, il est dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, mais Dieu n'a pas changé. Et il veut encore aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, accomplir des miracles extraordinaires, accompagner sa parole. » Et j'aime ce miracle dans Actes chapitre 3, où Pierre et Jean montent au temple et ils trouvent là un homme boiteux de naissance que les personnes portaient devant la porte du temple pour qu'il fasse l'aumône. Et j'ai une fois écouté le message d'un serviteur de Dieu qui disait la chose suivante. Il disait, mais il y a eu pour cet homme un miracle dans le miracle. Pourquoi ? Parce que premièrement, lorsque Pierre et Paul, recevant la puissance de Dieu pour guérir cet homme, ont vu cet homme se lever. Premier miracle, cet homme a été guéri. Mais le deuxième miracle, le miracle dans le miracle, ce qui peut-être est encore plus important que le premier miracle, c'est que cet homme a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Regardez ce qu'il est dit au verset 8 d'acte 3, d'un saut, alors qu'il n'avait jamais marché ou que très maladroitement, d'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Il avait immédiatement fait quelque chose qu'il n'avait jamais appris à faire. Quand vous apprenez à faire du vélo, est-ce que vous vous rappelez être monté sur votre vélo et avoir tout de suite su faire du vélo ? En général, non. On titube un peu avec le vélo, on tombe de temps en temps, on prend de l'assurance et voilà qu'on roule. Quand vous avez appris à nager, vous n'avez pas tout de suite plongé dans l'eau et puis vous saviez nager. On vous a appris, on a d'abord mis une bouée, un canard. Et puis vous avez pris de l'assurance et vous avez appris à nager. Mais là, cet homme qui ne savait pas marcher, que l'on devait porter, a non seulement été guéri, mais il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait et il l'a fait immédiatement. Puis-je vous dire que si vous voulez voir quelque chose que vous n'avez jamais vu, voir Dieu accomplir des miracles que vous n'avez jamais vus, il faudra peut-être que vous fassiez des choses que vous n'avez jamais faites. Amen. Et je termine. Je crois également que quand l'Esprit de Dieu vient en nous et vit en nous, il nous remplis de ce qu'il est dit dans Marc 16, ils imposeront les mains aux malades, les malades guériront, etc. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront. Je termine par le témoignage de cette femme qui est un jour arrivée dans une église et qui venait de se convertir. Et voilà qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit et qu'elle a commencé à parler en langue. Mais son parler en langue l'inquiétait par rapport à ce qu'elle entendait autour d'elle. Et elle allait voir son pasteur. Et son pasteur a dit, mais qu'est-ce qui vous inquiète ? Elle dit, mais j'ai l'impression que je dis toujours que 3 mots et c'est toujours les mêmes mots que je répète. Et alors le pasteur lui demande de raconter son témoignage et cette femme dira, j'ai été plus jeune, violentée de manière terrible par mon père. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous parlez de l'importance d'un Dieu qui est un père et qu'il faut se laisser aimer par ce Dieu père, j'ai du mal, en tout cas avec mon intelligence, face à ce que j'ai vécu, à comprendre que Dieu soit un père pour moi. J'arrive pas à le comprendre. J'arrive même pas, avec mon intelligence, à prononcer que j'aime Dieu en tant que père. Parce que j'ai vécu une détresse en tant qu'enfant. Et puis le pasteur lui dit, mais peux-tu me dire les 3 mots que tu dis ? Et au moment où elle dit les 3 mots qu'elle disait en langue, le pasteur reçoit l'interprétation de la part de Dieu et lui dit, les paroles que tu dis veulent dire, je t'aime, papa. Et au moment où tu parles en langue, tu dis quelque chose qu'avec ton intelligence, tu n'es pas capable de dire. Et Dieu, en esprit, t'a donné ces trois mots pour que tu puisses, en esprit, parler à un père qu'aujourd'hui, humainement, tu n'es pas encore capable d'aimer face à ce que tu as vécu. Et cette femme, pendant tout un temps, a continué à parler ces trois mots. Jusqu'au moment où ces trois mots, « Je t'aime, papa », sont devenus pour elle source de guérison. Et ayant été guérie, elle a dans un premier temps pu dire « Papa céleste, je t'aime ». Et dans un deuxième temps, elle a pu alors aller voir son père, pardonner ce que son père avait fait, et voir sa relation avec son père physique être rétablie, et par ce fait, voir son père venir au Seigneur et être touché par Jésus-Christ. Peut-on fermer les yeux un instant, s'il vous plaît ?